Avant de commencer, j'aimerais prier. Seigneur, merci pour cette possibilité de nous tourner vers toi, de nous plonger dans ta parole et d'écouter ce que tu as à nous dire. J'aimerais te prier que, à travers ta parole, à travers le commentaire qui en est fait, bien ce soit toi qui t'exprime, que tu touches nos cœurs et que tu nous fasses progresser pour grandir en toi, pour être des disciples de plus en plus affûtés à ton service. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Si vous n'étiez pas au courant avant de venir ce matin, vous connaissez maintenant le thème de notre culte et le titre de cette prédication. Une vie d'église sur deux pieds. C'est pas sur ce thème, enfin c'est pas sur cette phrase que je vais prêcher, mais sur un texte biblique. Un texte biblique bien connu, qu'on cite régulièrement, en tout cas moi j'aime beaucoup le citer, et j'ai déjà prêché dessus, et si vous êtes dans les églises depuis un moment, je pense que vous avez déjà entendu prêcher sur ce texte. C'est dans Actes 2, mais pour renouveler notre écoute de ce texte, j'ai cherché une version un peu plus dynamique, un peu plus surprenante. Et je vous invite à ne pas suivre dans vos Bibles la lecture qui est faite, mais vraiment l'écouter, éventuellement suivre le texte qui s'affiche, pour vous laisser interpeller par cette version nouvelle, par cette nouvelle façon de traduire ce texte. Et puis, pour être complètement nouveau, j'invite aussi un autre lecteur. Ce n'est pas moi qui vais le lire. Philippe, est-ce que tu peux venir pour lire notre texte pour ce matin dans Actes 2 ?
Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et cela, les gens en sont frappés. Tous les croyants sont unis, et ils mettent en commun ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés.
Je ne sais pas comment vous recevez ce texte. Moi, quand je le lis comme ça, au présent de l'indicatif, la question qui me vient, c'est où est-ce que ça se passe que je puisse y aller ? Où est cette vie d'église stimulante que je puisse y prendre part, moi aussi, me rendre à cet endroit ? Cet endroit, c'est la toute première église, l'église de Jérusalem, au 1er siècle, juste à ses débuts. Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel et il a envoyé son esprit sur ses disciples à la Pentecôte. Et là, ce jour-là, de 120 disciples, il termine la journée à plusieurs milliers. Et le texte nous dit qu'ils sont en croissance constante. Alors, avant de regarder ce texte, un avertissement. Ce texte, c'est un récit. C'est pas un commandement. Dans ce texte, Dieu ne définit pas le programme que doit suivre une église. C'est un témoignage de ce que l'église vit, de ce que les croyants vivent, de ce que Dieu a fait pour eux à ce moment-là. Et dans ce récit, on voit également ce que ça a produit, les conséquences que ça a eues, les fruits que ça a apportés. Et les récits sont utiles pour nous aussi, pour apprendre d'eux, pour nous servir de l'expérience de ceux qui nous ont précédés, tirer les leçons du passé, pas seulement les leçons de notre passé, mais aussi de ceux des croyants qui nous ont précédés. Et ici, le récit qu'on a, c'est celui d'une vie d'église enthousiaste. Une vie d'église, je le disais, que j'aimerais vivre, mais je suis sûr qu'il y en a parmi nous qui aimeraient vivre cette vie d'église. C'est également le récit d'une vie d'église, d'une église qui est en croissance permanente. Le verset 47 nous dit « Chaque jour, le Seigneur ajoute à la communauté ceux qui sont sauvés. » Ça fait envie à nous qui voulons grandir, nous aussi. Ce qui frappe d'abord dans cette vie d'église, c'est la manière avec laquelle ils la vivent. Ce n'est pas ce qu'ils font, ce n'est pas le programme d'activité qu'ils suivent, mais c'est le cœur qu'ils ont, l'état d'esprit dans lequel ils arrivent et ils participent. On nous dit qu'ils y participent régulièrement, fidèlement. On nous dit qu'ils sont frappés au verset 43. Alors, d'autres traductions ont « avec crainte », qu'ils sont impressionnés. Ça veut dire qu'ils prennent ce qui se passe au sérieux, comme venant de Dieu. Ce n'est pas un truc marrant, une expérience comme ça. Ils le prennent au sérieux, avec crainte. Ils font ça chaque jour, d'un seul cœur. C'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils sont tous d'accord, en accord les uns avec les autres. Ils le font avec joie et ils le font avec un cœur simple, avec simplicité. Sans se prendre la tête sur ce qui devrait être. On est ensemble, on fait ça simplement. Comme Ivan le disait tout à l'heure, pour la table ouverte, simplement. Et c'est ça qui fait envie, je crois. Ce qui fait envie, ce n'est pas de passer son temps à écouter des prédications. Ce n'est pas se réunir sans arrêt. Ce n'est pas être tout le temps ensemble, mais ce qui fait envie, c'est la joie, la simplicité, l'envie avec laquelle tout ça est vécu. Et en même temps, le sérieux et la conviction avec laquelle ils le vivent. La manière dont c'est vécu. Après, avec cette envie comme moteur, eh bien, la vie d'église est bien remplie. Et elle est organisée autour de quatre pôles. Les quatre points du verset 42, d'abord, l'écoute de l'enseignement. Ils écoutent l'enseignement des apôtres. Ils passent du temps à écouter ceux qui ont vécu avec Jésus, à apprendre ce que Jésus a fait, à en tirer les conséquences pour leur vie. Et cet enseignement est accompagné de miracles, on nous dit, des miracles qui viennent attester la puissance de ce qui est annoncé. Si Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, alors ça se voit aussi dans des signes extraordinaires. Deuxième chose, ils vivent comme des frères et sœurs. La plupart des Bibles traduisent la communion fraternelle. Concrètement, ils sont unis. Ils mettent en commun, ça nous étonne, ils mettent en commun ce qu'ils ont, ils vendent leurs biens, pour partager l'argent selon les besoins de chacun. Ils mangent ensemble, ils prennent leur repas ensemble. Également, troisième pôle, ils partagent le pain. Ce n'est pas pareil que prendre un repas ensemble, partager le pain, c'est prendre la Sainte Cène comme nous l'avons fait, se souvenir du sacrifice de Jésus-Christ comme point fondateur de notre unité, point fondateur de notre salut, l'événement qui nous rassemble et le mettre au centre de la vie d'Église. Et puis, quatrième pôle, ils prient ensemble. Ils prient ensemble, ils passent du temps ensemble pour se tourner vers Dieu, pour s'exprimer envers lui, pour exprimer leurs demandes, prier pour l'Église, je suis sûr, mais aussi pour chanter la louange de Dieu, pour le louer. Tous ensemble. On a ici tout ce qu'il faut pour une vie chrétienne, autour de ces quatre pôles, l'enseignement, la communion fraternelle, la scène et la prière. Cette richesse, c'est la vocation de l'Église. C'est à ça que l'Église est appelée, à tout ça. Mais comment font-ils ? Comment font-ils pour faire tout ça ? Quel est leur secret ? Est-ce qu'ils ont, eux aussi, une potion magique ? Le secret de l'organisation, c'est un verset, et même trois expressions dans ce verset 46. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons. Toute cette richesse, eh bien, elle n'était pas vécue sur un seul créneau pendant la semaine, le culte du dimanche matin. Ce n'est pas en se croisant 2 heures par semaine qu'une église de plus de 3000 personnes peut développer une vie d'église enthousiaste. Et surtout, ce n'est pas sur un créneau de 2 heures qu'elle peut l'entretenir. Il est nécessaire d'avoir de nombreux rendez-vous, de passer du temps ensemble et de façon naturelle, non calculée, eh bien, il développe 2 niveaux de rencontres, des rencontres en grand nombre et des rencontres en petits groupes. Le grand nombre, ça permet de bénéficier de l'enseignement des apôtres. Je rappelle qu'ils ne sont que 12. Alors, s'ils sont là à devoir enseigner les 3000 en même temps, c'est pas facile. Enfin, c'est plus facile que d'aller se répartir partout. En grand nombre, ça permet aussi, quand on chante, d'être porté par ça. Quand on chante les louanges de Dieu portées par la communauté qui se réunit, on est fortifié de voir combien on est. Et les jeunes parmi nous sont invités à aller au rassemblement jeunesse dans quelques semaines à Poitiers, où il y aura plusieurs centaines de jeunes qui seront là. C'est vraiment quelque chose qui porte, ces réunions où on se retrouve nombreux pour louer Dieu. Donc, des grandes réunions qui permettent de bénéficier du nombre et de la simplicité d'organiser certaines choses, mais aussi des réunions en petits groupes pour apprendre à se connaître, pour connaître les besoins de chacun, pour prier pour les besoins de chacun, pour pouvoir vivre la solidarité et le partage des ressources selon ce qui est nécessaire pour chacun. C'est aussi ce qui permet de manger ensemble. Je doute qu'ils arrivaient à faire un repas menu unique pour 3000 personnes. On perd là de la simplicité. Les petits groupes permettent de la garder. En France, dans notre contexte, on connaît des églises de petite taille, des églises où il y a 20 ou 30 personnes au culte, et il est possible de vivre ces 2 dimensions tous ensemble. Des églises où on connaît tout le monde, où on peut prendre le temps à la fin du culte de prendre des nouvelles, de se sentir à l'aise pour se confier, de se soutenir. Et quand on se retrouve en semaine, eh bien, on peut rassembler tout le monde parce que c'est facile de trouver un créneau où on est tous là, c'est possible de passer chercher les uns les autres. Et ce sont là de belles vies d'église. Certains l'ont connue dans cette église, quand elle était plus petite, à ses débuts, ou dans une autre église en France. Mais quand on grandit, ça devient difficile, voire impossible. Or, nous avons décidé de grandir. Nous voulons voir le royaume de Dieu grandir dans notre ville, à Clermont-Ferrand, et dans les villes environnantes. Et nous voulons prendre part à cette croissance, à l'extension du royaume de Dieu. Nous voulons y prendre part, mais nous voulons le faire sans renoncer à une partie de la vie chrétienne. sans renoncer à sa richesse, sans renoncer à la qualité de vie. Et c'est pour ça que nous voulons vivre notre vie d'Église, non pas sur un seul pied, le pied du culte, tous ensemble le dimanche, mais sur deux pieds. Le culte et des groupes plus petits qui permettent d'apprendre à se connaître pour vivre la fraternité. Nous appelons ces groupes de manière très originale des groupes de maison. On n'est pas les seuls, on n'est pas originaux à vouloir faire ça. Rick Warren, qui a vendu des milliers d'exemplaires de ses livres, milite pour que plus l'Église est grande, plus elle doit être petite. Plus l'Église grandit, plus elle rassemble de monde, plus il faut faire attention à ce que cette dimension plus petite, de proximité, eh bien elle soit entretenue. Plus on est grand, plus se retrouver en petits groupes est vital. Alors, qu'est-ce qu'un groupe de maison ? Ce serait bien de se mettre d'accord sur ce dont on parle, sur une définition. Un groupe de maison, c'est un petit groupe de personnes, entre 6 et 12 personnes. On peut faire des groupes petits, des groupes plus grands, mais ça me semble être un bon nombre, entre 6 et 12 personnes. Surtout, c'est un groupe qui est lié à l'Église. Ce n'est pas un groupe parallèle à l'Église qui développe sa propre vie, c'est un groupe qui est en lien avec l'Église, qui a un responsable qui est en phase avec ce que veut vivre l'Église, avec le pasteur, avec le conseil. Et c'est un groupe où on vit en unité avec ce qui se fait dans l'Église. Et le but de ce groupe, c'est d'allier spiritualité et fraternité. La spiritualité, c'est notre relation personnelle avec Dieu. Dans le groupe de maison, on veut travailler ce pan de la vie chrétienne, apprendre ensemble à être plus proche de Dieu, en meilleure communication avec lui, en meilleure relation avec lui. Et également, la fraternité, c'est-à-dire la relation les uns avec les autres. Voilà. On veut travailler en parallèle, dans ce cadre plus petit, notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Ce n'est pas nouveau comme concept. Vous l'avez vu dans la lecture que je fais d'Acte 2. L'Église primitive avait déjà ces deux dimensions. C'est dans le texte qu'on a lu, dans le texte que Fabrice nous a lu en introduction du culte d'Acte 5. Dans l'histoire aussi, on a eu ces épisodes. Luther a visé à mettre ça en place. Il y a un pasteur alsacien au XVIIe siècle, Philip Spencer, qui a mis ça en place aussi, à des lieux où on pouvait poser ses questions, partager ensemble ce que dit le texte dans des contextes plus petits. Donc dans l'histoire de l'Église, on l'a vu, on le voit aussi en dehors de l'Église. Notre société est friande de petits groupes, des groupes de parole, des groupes de discussion. La différence que dans nos groupes de maison, c'est Dieu qu'on veut mettre au centre. On n'est pas là pour se réunir et uniquement passer du bon temps ensemble, mais pour se réunir autour de Dieu. On veut mettre Dieu au centre à travers sa parole et la prière, et qu'il ait la première place. Donc, un groupe de maison, un petit groupe de personnes liées à l'Église, dont le but est de grandir dans la spiritualité et dans la fraternité. Concrètement, qu'est-ce qu'on y fait ? Je propose 5 directions, et c'est ce que les responsables de nos groupes de maison sont invités à faire. 5 directions qu'on veut vivre dans nos groupes de maison. Et la première direction, c'est bâtir un relationnel fort. Bâtir un relationnel fort entre les différentes personnes qui viennent. C'est difficile, nous l'avons dit, de construire des relations fortes en 2 heures, une fois par semaine, le dimanche matin. Après le culte, On a peu de temps, surtout si le prédicateur a été bavard. Certains doivent partir. Et le grand nombre ne nous permet de voir que quelques-uns. Ça laisse peu de place, on peut se dire bonjour, mais apprendre à partager les préoccupations, les projets, les joies de chacun, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de nouer des liens d'amitié. Et pourtant, la Bible nous y invite. Le Nouveau Testament nous invite à une interaction profonde entre les chrétiens, une communion profonde. Il y a quelque chose qui, une recherche qui m'a passionné, c'est chercher dans la Bible toutes les fois où la mention « les uns les autres » apparaît. Les uns les autres. Il y en a partout dans le Nouveau Testament. Par exemple, « aidez-vous les uns les autres, apportez vos fardeaux » dans Galates. « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres » dans 1 Pierre. « Veillons les uns sur les autres » dans Hébreux. Voilà, il y en a toute une liste, c'est passionnant. On est appelé à avoir ensemble des relations intimes et non pas distantes. Et la mention les uns les autres, la plus célèbre, la plus englobante, c'est celle où Jésus dit et répète, puisque ça apparaît plusieurs fois, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, son commandement. Et donc, le petit groupe, c'est une opportunité pour vivre ça. Deuxième chose à faire ensemble, prier les uns pour les autres. La prière est importante. Paul écrit en Éphésiens, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes, sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Nous prions au culte. Mais notre culte ne couvre pas toutes les formes de prière. Nous y avons un lieu pour avoir de la prière de louange. Nous avons aussi une prière structurée pour toute la communauté. Fabrice a prié pour 3 personnes et comme ça, semaine après semaine, eh bien, on arrive à prier pour toute la communauté. Avant le culte, on a une réunion de prière où on peut prier pour le projet de notre Église, le projet qu'on porte ensemble. Mais ce n'est pas le lieu où on peut prier pour nos besoins concrets, nos besoins de tous les jours. Prier pour la maladie ou juste la fatigue qu'on traverse en ce moment. Ou on peut prier pour un examen, un entretien avec mon supérieur hiérarchique, l'orientation qui me pose souci. Ou on peut prier pour un souci relationnel qu'on a au travail ou dans la famille. Tellement de personnes, tellement de sujets et d'occasions de nous soutenir. Le petit groupe le rend possible. Un petit groupe avec une confidentialité obligatoire permet de prier les uns pour les autres de façon complète, profonde, comme nous y invite l'apôtre Jacques. Troisième chose que permettent les petits groupes, c'est de mieux connaître la Bible. Mieux connaître la Bible parce que nous devons la connaître. Nous devons de la connaître. Nous sommes prêtres. L'apôtre Pierre le dit dans sa première épître, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de Jésus-Christ. On n'a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. Dieu entre en relation directe avec nous à travers le seul intermédiaire, Jésus-Christ. Dieu le Fils, la parole faite chair. Et nous avons besoin de le fréquenter à travers le témoignage de la Bible. Et pourtant, la Bible, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Il y a des passages difficiles, des passages qui posent question, des passages difficiles à contextualiser. Et le petit groupe, c'est un lieu où justement on peut s'ouvrir de ça. On peut partager ses questions avec les autres qui sont là. Écouter des aînés dans la foi, partager ce qu'ils ont compris, leur cheminement. Écouter aussi des plus jeunes nous interpeller avec des questions auxquelles on ne prête même plus attention. Et ainsi, comme ça, s'approprier la parole. Être de plus en plus capable, eh bien, de s'en servir, de l'avoir toujours en main. Paul encourage que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire en pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Le petit groupe est un lieu qui permet de donner cette dimension à la parole de Dieu dans nos vies. Quatrième direction, passer de la connaissance à la mise en pratique. Passer de la tête au cœur. La vie chrétienne, ce n'est pas accumuler des connaissances bibliques, c'est mettre en pratique. Et ceux qui ont lu l'épître de Jacques se souviennent certainement de ce coup que Jacques met au lecteur quand il dit « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage, mais après s'être observé assis, il s'en va et oublie vite qui il est. La parole de Dieu nous confronte à qui nous sommes, nous montre l'écart entre ce que nous sommes et la vie en Jésus-Christ, ce que Jésus attend de nous. Et dans ces lieux, plus petits, avec moins de monde, où règne la confidentialité, eh bien, nous pouvons nous ouvrir sur nos combats, sur les tentations contre lesquelles nous luttons. Nous pouvons trouver du soutien dans ces combats, nous pouvons être stimulés par ce que vivent les autres et par les victoires aussi qu'ils remportent et qu'ils partagent avec nous. Et encore une fois, la Bible nous y invite, confessez vos péchés les uns aux autres, est-il écrit. Et si c'est difficile de se rendre vulnérable dans une grande assemblée, dans un petit groupe où la confiance est établie, il devient possible de vivre cela et ainsi d'avoir un soutien pour progresser dans la sanctification. Cinquième direction que peuvent suivre les groupes de maison. Partager un souci pastoral. Je le disais en citant la première épître de Pierre, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas dans les églises de pasteurs, d'évêques, de super responsables dont nous dépendons tous. Et le pasteur ne peut pas s'occuper individuellement, en profondeur, de 150 personnes. Je ne parle même pas des 3000 de Jérusalem. En tout cas, personnellement, je ne peux pas. Mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas ce que demande le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il a prévu. Ce qu'a prévu le Seigneur, c'est qu'il a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Il a disposé le corps pour que tous les membres prennent soin les uns des autres. Et un petit groupe, c'est un lieu où on peut prendre soin les uns des autres. On peut non seulement se connaître, prier les uns pour les autres, mais on peut prendre le temps de prendre des nouvelles, de passer se voir pendant la semaine, de se donner un coup de main concret Et ça se met en place naturellement, il n'y a pas besoin de programme. Et j'ai été touché au cours de l'année dernière. Plusieurs ont été malades pendant longtemps et empêchés de venir à l'église. Et les groupes se sont organisés pour leur rendre visite. Les groupes se sont rendus chez eux, naturellement, dans ce souci pastoral d'aller les soutenir. Cinq directions donc pour les groupes de maison. Bâtir un relationnel fort, prier les uns pour les autres, mieux connaître la Bible, passer de la théorie à la pratique et partager un souci pastoral. Et pour conclure cette prédication, j'aimerais vous lancer une invitation. J'aimerais vous inviter à vivre cette vie d'église sur deux pieds. La vie d'église, ça peut être quelque chose de génial, comme le montre ce passage dans Acte 2 que nous avons lu. Et c'est ce type de vie d'église que nous visons. C'est ce type de vie d'église qui, moi, me fait rêver, qui, moi, me fait revenir semaine après semaine, jour après jour dans mon église. Une vie d'église à la fois en croissance, mais aussi dans l'enthousiasme. Et je ne peux que vous encourager à vivre cette dimension à petite échelle. En plus de la vie occulte, à rejoindre un groupe de maison. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que nous voulons lancer de nouveaux groupes de maison. L'année dernière, nous avions 6 groupes et il y en a beaucoup moins à cette rentrée. Le groupe de Paul Haguet n'est plus un groupe de maison parce qu'il évolue comme un projet d'implantation. Ah, si vous voulez en savoir plus, demandez à Philippe et Chantal. Nous avions un groupe anglophone aussi dont les participants sont tous rentrés aux États-Unis cet été. Puis on a des groupes aussi où les responsables arrête parce que c'est pas possible de continuer et on a étudié les choses ensemble et c'est certainement la meilleure chose. C'est la vie, les choses bougent, il faut savoir s'adapter au changement. Nous avons besoin de nouveaux groupes pour vivre ces deux dimensions. Si ça vous intéresse, vous avez trouvé sur vos chaises des petits papiers, des coupons, qui vous propose de vous inscrire. Oui, je désire vivre la vie d'église sur deux pieds et rejoindre un groupe de maison. On vous demande votre nom, vos coordonnées pour vous tenir au courant du groupe que nous vous conseillerons, une adresse ou un quartier afin que ce soit plus facile d'organiser les groupes de façon géographique, parce que pour vivre la proximité, c'est dommage de devoir traverser toute l'agglomération. Et puis aussi la place pour d'autres informations, si vous le trouvez utile, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ce serait dommage que vous vous priviez de cette dimension de la vie d'église. Parce que Dieu a prévu pour nous que la vie d'église soit quelque chose d'enthousiaste. Que la vie chrétienne soit quelque chose d'enthousiaste. Il a équipé son église, il nous a donner des dons pour cela. Il nous a donné son esprit qui nous accompagne. À nous de nous en saisir. Et à nous de vivre cette vie d'église riche. Je vais prier. Seigneur, c'est vrai que ce que vivait l'Église au début fait envie. Et Seigneur, je crois que si nous manquons d'enthousiasme, ce n'est pas parce que ton esprit s'est affaibli au cours des siècles. Mais c'est parce que nous avons encore à nous laisser vivifier par ce qu'il nous apporte. Seigneur, tu connais les projets de cette Église et tu vois notre envie de vivre suivant deux dimensions, à la fois une dimension large avec un nombre qui nous permet de faire de belles choses, de grands projets, et une dimension plus petite, où nous pouvons entrer dans l'intimité, partager et nous soutenir, grandir ensemble. Seigneur, j'aimerais te prier que tu nous bénisses dans ce projet. J'aimerais te prier que tu nous conduises jour après jour, comme tu l'as fait depuis le début. Je te prie pour que nos groupes de maison soient des lieux de croissance pour chacun. Je te prie que nous ayons l'occasion, en ce mois d'octobre, de pouvoir en lancer de nouveau. Et je te prie que tout ceci soit vécu pour ta gloire. Je te prie au nom de Jésus. Amen.